Az pas culte. OK, avant de vous inviter à tourner, simplement une petite introduction. On ne dira jamais assez souvent que la parole de Dieu est un livre absolument incroyable. Pour certains, la Bible demeure encore un mystère et j'aimerais vous donner une clé pour vous aider à déverrouiller la Bible et qui permettra la vérité de la parole de Dieu de pénétrer, de s'incruster dans vos cœurs et dans votre vie de tous les jours. Et la clé, c'est un homme, une personne et plus qu'une personne. Son nom, c'est Jésus. Et cette personne, elle est omniprésente dans toute la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit concernant l'Ancien Testament, « Vous sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Amen. Je vous rappelle que l'Ancien Testament a été écrit avant la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et un des passages de l'Ancien Testament qui rappelle le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie de Joseph. Et ce matin, on va regarder la vie de Joseph. Parce que plus j'étudie la Bible, plus je suis en admiration face à la parole de Dieu. Et je prie le Seigneur qu'avant la fin de cette réunion ce matin, vous qui avez une Bible dans vos mains, eh bien, vous serez bénis de voir un passage qui nous dévoile un portrait caché de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu aime tellement son Fils qu'il a voulu nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples et beaucoup d'images de lui. Et il veut tellement nous sauver qu'il nous a donné un nombre incroyable d'illustrations concernant son salut. Ce matin, nous allons voir 4 épisodes. Je ne sais pas si on va voir les 4. En tout cas, je regarde l'heure. On va essayer on va laisser la liberté au Saint-Esprit ici de nous parler. Mais 4, j'aimerais regarder 4 épisodes dans la vie de Joseph. D'abord, Joseph est le fils bien-aimé de son père. Joseph est le serviteur souffrant. Joseph a été souverainement élevé. Et Joseph est allé à la rencontre de ses frères pour leur pardonner et établir une nouvelle relation avec lui. En fait, pour leur pardonner ou pour leur montrer finalement ou les amener à la repentance afin qu'ils reçoivent pleinement le pardon et qu'ils puissent bénéficier à nouveau de cette relation qu'ils avaient perdue avec leurs frères. Et tout ça, ça nous rappelle d'abord Jésus, le Fils bien-aimé du Père. Ça nous rappelle Jésus, le serviteur souffrant. Ça nous rappelle Jésus qui a été souverainement élevé. Et ça nous rappelle aussi Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, eh bien, nous prêche un message, le message de la réconciliation, afin qu'on puisse recevoir le pardon de Dieu et rétablir notre communion avec lui. Vous êtes amen à ça. Amen. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Nous allons voir ensemble l'Évangile selon Joseph. Et le premier portrait de Jésus que j'aimerais regarder avec vous dans la vie de Joseph, c'est le suivant. Nous voyons en Joseph le fils bien-aimé qu'est Jésus. Versets 1 à 3. Genèse chapitre 37, versets 1 à 3. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, qui est un autre nom pour Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois ce matin, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de pouvoir plonger nos regards dans ta parole, cette parole qui est venue d'en haut, Seigneur, et qui est écrite et que nous pouvons contempler de nos propres yeux, mais surtout, Seigneur, qui est toujours encore efficace pour bouleverser des vies, transformer des cœurs et surtout, Seigneur, donner une nouvelle espérance à tous ces gens qui vivent en ce monde et qui sont tellement désespérés. Seigneur, merci parce que lorsque tu nous dis que tu nous aimes, Seigneur, cet amour, il est inconditionnel. Ce n'est pas un amour basé sur les sentiments, mais Seigneur, dans ton caractère, tu es amour. Tu es amour, Seigneur, et nous voulons te remercier de t'être révélé à chacun de nous. Merci pour la grâce que tu nous as fait de nous présenter Jésus-Christ. Merci parce que non seulement il est mort pour nos péchés, mais il est aussi revenu de la mort à la vie. Garantissant ainsi à tous ceux qui ont placé leur confiance en lui qu'un jour tu les ramèneras aussi de la mort à la vie. Ce matin, à travers Joseph, que nous puissions voir, Seigneur, cette image, ce portrait que tu nous as laissé, qui nous permet de voir à travers lui la personne de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance par ton Saint-Esprit dans le cœur de chacun ici présent ce matin. Tu connais les besoins de tous. Seigneur, que tous puissent recevoir cette portion que tu leur réserves Et tout cela, c'est dans Jésus-Christ que je te prie. Et le peuple de Dieu dit, amen, amen. Nous pensons à Joseph, le fils bien-aimé, tel qu'il apparaît dans la vie de Jésus, le fils bien-aimé, tel qu'il apparaît dans la vie de Joseph. Il y a trois choses qui ressortent ici dans les versets 1 à 3 concernant Joseph. Premièrement, l'affection que le père avait à son égard. Nous pouvons voir au verset 3 que parmi tous les frères, Joseph est celui que le père aime le plus. Il était le fils bien-aimé de son père. Et qu'est-ce que cela nous rappelle concernant la personne de Jésus-Christ? Dans Matthieu chapitre 3, verset 17, il est écrit, « Au moment où Jésus est baptisé, une voix se fit entendre des cieux disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et dans Matthieu 17, 5, alors que le Seigneur Jésus sur la montagne avec les disciples, la montagne de la Transfiguration, eh bien, la voix du Père se fait entendre à nouveau dans le ciel disant, « Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, écoutez-le. » Et c'est une bonne question ce matin à se poser comme introduction au message, est-ce qu'on écoute la voix du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on écoute régulièrement la voix du Seigneur Jésus-Christ, ou est-ce qu'on écoute notre cœur, ou est-ce qu'on écoute nos sentiments, ou est-ce qu'on écoute notre vieille nature humaine? Jésus, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, sur la montagne de la Transfiguration, il dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Écoutez-le. Pourquoi écoutez-le? Parce qu'il est les paroles qui donnent la vie éternelle. Amen. Il donne les paroles qui donnent la vie éternelle. Et tout comme Jésus, Jacob avait donné un nom spécial à son fils Joseph. Le prénom Joseph signifie « abondance ». Il signifie « celui qui ajoute, celui qui multiplie ». Et c'est ce que Joseph était, un multiplicateur. Que signifie le nom de Jésus? Il signifie « Yahvé sauve » et aussi « celui qui donne la vie en abondance ». Jean chapitre 10, verset 10. En parlant de lui-même, Jésus a dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il est le Joseph qui ajoute, qui multiplie, qui donne en abondance, un multiplicateur. Et encore une fois, Joseph est une image du Seigneur Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Premièrement, nous voyons en Joseph une image de Jésus qui est le préféré de son Père, celui en qui il a mis toute son affection. Et la deuxième chose qui ressort ici dans les versets 1 à 3 concernant Joseph, c'est ceci. Verset 2, il se distingue nettement de tous les autres. Il est écrit au verset 2 que Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. On dirait ici, aujourd'hui, on dirait que c'est un délateur, parce que c'est pratiquement un péché de rapporter le mal que les autres font. Mais Joseph le faisait dans un but bien précis. Ils sont méchants et lui ne l'est pas. Et dans Hébreux chapitre 7, verset 26, l'auteur parle de Jésus qui est saint et innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Et Joseph rapportait à son père les mauvais propos de ses frères, mais ce n'était pas quelqu'un qui n'était pas un rapporteur de mauvaises nouvelles. Il faisait simplement dire la vérité. Ça, c'est toute la différence. Aujourd'hui, quelqu'un qui dit la vérité concernant quelqu'un, c'est un délateur. Mais non, on doit dire la vérité si on veut faire en sorte de réparer, si on veut faire en sorte de ramener les gens sur la bonne voie s'ils se sont éloignés d'une mauvaise voie. Mais on n'est pas des délateurs. Pourquoi le monde déteste-t-il Jésus? Jésus nous donne la réponse dans Jean chapitre 7, verset 7. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Parce que Joseph rendait témoignage du mal que ses frères faisaient. Ceux-ci le détestaient. Et Jésus a rendu lui aussi un témoignage que ce monde est mauvais. Frères et sœurs, le monde ne déteste pas le petit Jésus. Le monde ne déteste pas le Jésus qui guérit les malades. Frères et sœurs, le monde ne déteste pas le Seigneur qui nourrit. Trop vite? Okay. On ne verra pas tout le message le matin. Le monde déteste le Jésus qui nourrit les foules. Le monde déteste. Non, pardon, j'ai dit le monde aime le Jésus qui nourrit les foules. Mais le monde déteste le Jésus qui rend témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Pourquoi les gens ont tellement horreur d'entendre parler du péché? Pourquoi? Y compris parmi les chrétiens. Hein? Parce que ça nous amène à remettre en question le genre de vie qu'on mène. Et ce n'est pas ce Jésus-là qu'on aime. Parce que Jésus, c'est celui qui... Ce Jésus-là, c'est celui qui nous dit, « Écoute, voici les exigences du Père. » Si tu es vraiment né de nouveau, voici la vie que tu dois mener. Et si tu as commis un péché, le Père est toujours là pour te pardonner. Mais il est toujours là pour nous remettre en question. Pourquoi? Afin qu'on puisse être amené à lui ressembler et qu'on puisse évaluer jusqu'où on en est rendu dans notre vie chrétienne. Si on demandait à un frère, une sœur ici qui a 20, 30 ans de vie chrétienne et que par rapport à son premier témoignage qu'elle a apporté lors de son baptême et qu'on lui demandait maintenant aujourd'hui, viens rendre témoignage à nouveau de ce que Jésus a fait dans votre vie, combien de pages on serait capable de remplir, frères et sœurs? Est-ce qu'on serait obligé de reprendre notre témoignage du baptême et dire si ma vie chrétienne s'est limitée à ça pendant 20, 30 ans? Les Jésus qu'on déteste, c'est celui qui rend témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises. Et les œuvres mauvaises, c'est quoi? C'est le péché. Et on a vu ce mercredi soir dans l'Évangile de Matthieu, on a parlé d'un autre passage, mais on a vu que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont rejeté la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les gens rejettent Jésus-Christ parce qu'ils ne veulent pas se détourner de leur péché. Il y a des chrétiens qui ne progressent pas dans la foi chrétienne parce qu'ils ne veulent pas se détourner de leur péché. Voici un jeune homme qui a toute l'affection de son père et qui se distingue de ses autres frères en ayant une conduite irréprochable. Et s'il y a une chose qui ressort ici dans les versets 1 à 3 concernant Joseph et qui le distingue des autres, c'est la tunique de plusieurs couleurs qu'il portait. Et on pourrait prêcher un message complet sur la tunique, mais on n'a pas vraiment le temps ce matin. Mais il est écrit au verset 3, « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. » Jacob avait réalisé que Joseph était unique et totalement différent de ses frères. Il va lui donner une tunique de plusieurs couleurs. C'est là le signe extérieur qui distinguait Joseph de ses frères. Et ce manteau devait être magnifique. Chers amis, Jésus se distinguait de tous les autres parce qu'il est le seul à avoir porté un vêtement de justice. Et il se distingue de tous les autres. Il est ce sauveur merveilleux qui a donné sa vie pour vous et pour moi. Le psalmiste dit dans le psaume 45, verset 7, « Tu aimes la justice et tu haïs, détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie plutôt que tes frères. » Voyez-vous le parallèle avec Joseph? Joseph détestait le mal. Il aimait la justice, il haïssait la méchanceté. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi plutôt que ses frères. Les petits-enfants aimaient venir s'asseoir au pied de Jésus pour l'écouter. Jésus est celui qui porte un vêtement de justice et qui le différenciait de tous les autres. Vous voyez non seulement ici l'affection que le Père a pour lui, mais également jusqu'à quel point il se distingue des autres. La troisième chose qui ressort ici concernant Joseph, c'est ceci. Versets 5 à 9, son règne futur. Joseph eut un songe, nous dit le texte biblique, verset 5. Il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Puis Joseph eut un autre songe, il le raconta à ses frères, il leur dit, « Et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi, en signe d'obéissance. » Je dois vous dire que l'idée de se prosterner devant Joseph n'a pas plu à ses frères. Pourquoi étaient-ils réticents, ses frères, face à cette idée? Est-ce que cela vous rappelle, frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ? Il suffit de lire dans Matthieu, chapitre 26, verset 64. Jésus répondit au grand prêtre, « Je vous le déclare dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir sur les nuages du ciel. » Et ils détestèrent Jésus uniquement parce qu'il parlait de son règne futur. Voilà donc le Fils... Pardon. Savez-vous pourquoi ce monde se trouve dans un tel désordre? Jésus est le roi qui devrait régner sur son trône. Satan est un criminel, il devrait être en prison. L'Église est l'épouse, elle devrait être avec son époux. Bientôt, Dieu mettra fin à ce désordre et chaque chose sera remise à sa place. Jésus siégera sur son trône, Satan sera emprisonné et nous serons pour toujours avec Jésus-Christ. Rendons gloire à Dieu pour cela. Vous dites amen à ça. Et frères et sœurs, ça s'en vient. Ça s'en vient. Pas comme une vague, un tsunami qui s'en vient pour tout mettre en place les derniers temps. Gog et Magog, la Chine et la Russie. Cette semaine, la Chine qui est en train de faire une alliance avec l'Iran. Les ennemis mortels d'Israël qui ont juré de faire sauter Israël. Toutes les nations sont rassemblées comme Dieu l'avait prédit. Le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, les Français, tout le monde est là. Dieu leur a donné rendez-vous depuis toute éternité dans cette région-là. Est-ce que vous êtes prête à rencontrer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ ce matin? Oui. Êtes-vous sûr que vous allez décoller ou si vous allez rester sur vos chaises, frères et sœurs? Ça, c'est la question qu'on peut se poser, hein? Ah oui, hein? Parce que le Seigneur a dit, veillez, veillez, soyez prêts. Est-ce que vous veillez? Est-ce que vous êtes prêts? Ou si vous pensez que le Seigneur va revenir dans l'autre génération? Frères et sœurs, tout est en place. On est en train de vivre le dernier acte d'une pièce de théâtre qui va mettre fin à tout ce que ce monde a préparé, tout ce que ce monde a prévu, et tout ce que ce monde vit. Et le dernier acte, ce sera la nouvelle terre, les nouveaux cieux, la Jérusalem céleste qui va descendre, où le peuple de Dieu va habiter avec son Seigneur et Sauveur et va régner avec lui pour l'éternité. J'espère que c'est votre espérance ce matin dans votre cœur. Amen. Voici donc le Fils bien-aimé en qui le Père met toute son affection, à qui on n'a rien à reprocher, qui a reçu la promesse qu'il régnerait dans le futur. Voilà donc le portrait que nous avons de Joseph, qui dépeint bien le Seigneur Jésus-Christ, le Fils bien-aimé. Non seulement nous avons à travers Joseph un portrait de Jésus, le Fils bien-aimé, mais deuxièmement, nous voyons Joseph, le serviteur souffrant qu'est Jésus. Genèse chapitre 37, versets 12 et 13. Tout comme ce fut le cas pour Jésus, Joseph fut celui qui a été envoyé. Regardez au chapitre 37, 12, 13, versets 12 et 13. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Jacob dit, « Va vers tes frères et vois s'ils sont en bonne santé. » Est-ce que cela ne vous rappelle pas le Seigneur Jésus-Christ? Dans Jean chapitre 4, 1 Jean, la première épître de Jean chapitre 4, verset 10, où il est écrit, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils pour voir jusqu'à quel point nous étions en bonne santé spirituelle. » Ça, c'est moi qui le rajoute. « Pour voir jusqu'à quel point le monde était en bonne santé spirituelle. Et nous l'avons crucifié. » Nous sommes tous malades. Atteint par une maladie qui ne cherche qu'à nous faire mourir, c'est le péché. Chers amis, Jacob aimait non seulement Joseph, mais il aimait aussi tous ses enfants. Jésus n'aime pas seulement les Juifs, il aime tout le monde. Car Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin de sauver le monde. Le monde. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ça réjouit mon cœur, ça, de savoir que Dieu ne fait pas de favoritisme. Que Dieu m'aime autant que vous et qu'il vous aime autant que moi. Peu importe la couleur de votre peau, peu importe la langue parlée. C'est extraordinaire, non? C'est magnifique. Et dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de préférés. Ah, il y en a qui vont occuper des places particulières, mais il n'y a pas de préférés. Vous savez, avec le méthodisme, il y avait deux grands messieurs qui dirigeaient le méthodisme. Il y avait John Wesley et il y en avait un autre. Son nom va me venir. Et en fait, c'était simplement des questions de différence de doctrine qui faisaient qu'il y avait deux tendances dans le mouvement méthodiste. Et certains ont demandé à l'autre, que je ne me souviens pas de son nom, c'est dommage, j'ai un petit trou. Ils ont dit, écoute, est-ce que John Wesley un jour, est-ce qu'on va voir John Wesley un jour au ciel? Et l'autre de dire, non, on ne le verra pas. Parce qu'il va être tellement proche du trône de Dieu, nous tellement loin du trône de Dieu qu'on ne le verra pas. Et je trouvais ça beau, parce que peu importe qui nous sommes, ce qui est important, et peu importe l'appel à lequel nous sommes appelés, ce qui est important, c'est qu'on ait l'assurance qu'on va avoir accès au trône de la grâce de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et lorsque le Seigneur, à la fin des temps, ouvrira ce livre, c'est ce qui est important pour nous. Et pas sur la base de ce qu'on a fait, frères et sœurs, sur la base de ce que Lui a fait pour nous. Amen. C'est important. Non seulement Joseph fut-il envoyé par son père, mais il fut méprisé. Regardez, Genèse chapitre 27, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Pardon, 37, verset 4. Qui haïssait-il? Joseph. Il ne pouvait lui parler avec amitié.
Il en fut de même pour le Seigneur Jésus. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Non seulement l'ont-ils pas reçu, mais ils l'ont méprisé et ils l'ont détesté. Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 24, « Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils les ont vues et ont haï, et moi et mon Père. » Et Jésus, le Fils unique du Père, celui qui a tout créé, celui dont l'amour n'a pas de limite, est venu voir ses frères, ils l'ont détesté, ils l'ont méprisé. Et le message est clair de la part de Jésus. « Celui qui me hait, dit Jésus, est aussi mon Père. » On ne peut pas dire « j'aime Jésus, j'aime pas Dieu », on ne peut pas dire que j'aime Dieu et que je n'aime pas Jésus. Pourquoi? Parce que les deux ne font... Oui, oui. Pourquoi les frères de Joseph le détestaient-ils tant? Eh bien, ils étaient arrogants et orgueilleux. Lisez le verset, Genèse 37, verset 8. Vous allez découvrir pourquoi ils détestaient Joseph. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu domineras sur nous? » Et ils la hirent encore davantage à cause des songes qu'il avait eus et à cause de ses paroles. En d'autres mots, ils étaient en train de dire à Joseph, « Il n'est pas question, Joseph, que tu règnes sur nous. » Et frères et sœurs, il y a combien de frères et sœurs en Christ qui se disent chrétiens, qui n'ont pas avancé d'un iota parce qu'ils ont accepté Jésus comme sauveur, mais qui ne l'ont jamais accepté comme Seigneur. « Oui, j'accepte ton salut, mais j'accepterai jamais que tu règnes sur moi. » Et qui n'ont jamais avancé dans leur vie chrétienne. Et que si ce n'était pas du jugement ou du regard des autres, ils retourneraient dans le monde parce qu'ils trouvent plus de plaisir dans le monde que dans l'Église. Le salut, c'est Jésus-Christ sauveur, c'est Jésus-Christ Seigneur. Et si on n'avance pas dans notre vie chrétienne, si on n'a pas de victoire sur le péché, c'est parce que Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de nos vies. Lui seul a obtenu la victoire sur le péché, lui seul a obtenu la victoire sur la mort, lui seul a obtenu la victoire sur le monde, et lui seul a obtenu la victoire sur le diable. Et cette victoire, on n'a pas à aller la chercher, on a à se réfugier dans la victoire qu'il a déjà remportée pour nous, mais il a besoin d'être Seigneur. Il y a des gens, ça leur prend toute une vie pour comprendre ça, et ils luttent constamment. Il est sauveur, ben oui, ils viennent toujours à la croix, oui, toujours la même, 30 ans qu'on... Pendant 30, 40 ans, ils confessent toujours le même péché. Jamais la même victoire. Mais ça, je vais vous dire, frères et sœurs, moi, ça me déprimerait à mort, une vie chrétienne comme ça. Hein. Ça me déprimerait à mort, je retournerais dans le monde. Mais d'arriver, je dirais, Seigneur, tu m'as pris là, j'étais dans le bourbier, j'étais dans la boue. Et en tant que Seigneur, regarde comment tu m'as fait avancer, progresser, pour que je te rassemble, Seigneur. Et je suis fier, je suis digne, je suis fier, pas digne, mais j'ai la joie, je suis content de dire que je t'appartiens, Seigneur, parce que chaque jour, tu fais des miracles dans ma vie. À chaque jour, maintenant, quand j'ai une mauvaise pensée, elle est identifiée parce que ton Saint-Esprit me dit, « Hey, c'est pas les pensées qui viennent de ton Seigneur, ça. » Ouais. Ça, c'est du monde. Tant ça, c'est du monde. Ça veut simplement t'amener à reculer dans ta vie chrétienne. Viens chercher les pensées de Jésus-Christ. Viens te nourrir de la parole. Et tu vas voir que les mauvaises pensées, tôt ou tard, tu vas les menotter, tu vas les caser. Amen. C'est important. Vous pensez que c'est juste Jésus qui peut faire ça? Et on a un homme incroyable aujourd'hui, hein, dans Joseph. Joseph. On encourage nos jeunes à coucher à droite et à gauche. Il y a des distributions de préservatifs dans les écoles. Il y en a à peu près partout aujourd'hui, hein. Joseph, le Seigneur Jésus, t'as pas encore arrivé, mais c'était un homme irréprochable. Si vous lisez Joseph, il est venu au monde avec le péché qui habite en lui. La Bible raconte les péchés de Moïse, elle raconte les péchés de David, elle raconte les péchés de Paul, mais elle ne raconte aucun péché, aucun péché de Joseph. Aucun péché de Joseph. Et Joseph, quand il y a une femme qui l'a tiré dans son lit, il était capable de dire non. Il a même quitté la place tout nu, plutôt que de perdre son nom et de salir le nom de Dieu. Ouais. Pourquoi? Parce que Dieu était le Seigneur de sa vie. Joseph obéissait à la loi de Dieu. Dieu était quelqu'un d'important. Dieu était le premier dans sa vie. Et c'est important pour nous qu'on se pose ces questions-là. Amen. Ouais. Je ne suis pas là pour vous décourager ce matin. Et je ne suis pas là pour vous cacher la vérité non plus. Et je ne vais pas vous donner de fausses consolations. Hein? Vous prenez un violon en avant, vous jouez de la musique, vous dites, non, continuez comme ça, vous êtes bien. T'es dans le trou, continue dans le trou. Creuse ton trou, creuse ta fosse. Non, je suis pas comme ça, moi. Et le Seigneur n'est pas venu ici pour ça non plus. Hein? On aime tellement la chair aime tellement se faire flatter. On aimerait donc ça que dans une prédication de temps en temps, on nous dise, hey, vous êtes une bonne personne. Hein? Vous êtes donc beau, vous êtes donc fin, vous êtes donc gentil. Hein? Ça vous fait du bien déjà. Hein? Hey, on aime ça, on est comme ça. Et le Seigneur nous dit, il n'y a rien de bon qui habite en toi. Si ce n'était pas de ma grâce, tu serais perdu. Alors, marche dans ma grâce. Marche dans mon amour. Marche dans les pas de Jésus-Christ. Et tu verras combien ta vie sera transformée. Amen. Ouais. Est-ce que je pourrais avoir un petit verre d'eau, s'il vous plaît? On s'en va à la voix rauque. Aujourd'hui, le monde ne veut plus plier le genou devant Jésus. La plupart des gens dans ce monde sont comme des paons paradant en direction de l'enfer parce qu'ils se pensent trop bons pour être condamnés. Tout comme Joseph, Jésus est celui qui a été envoyé par le Père, comme Joseph, il est celui qui a été aussi méprisé, et comme Joseph, il est aussi celui qui a souffert. Comment Joseph a-t-il souffert? Regardez dans Genèse 37, verset 18, on a complété contre lui. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complétèrent de le faire mourir. Il a vu les siens conspirer contre lui. Hey, frères et sœurs, c'est lourd, ça. C'est lourd de penser. Moi, en tout cas, nous, on était 7 frères, 7 garçons, une fille chez nous. Ça m'aurait pesé lourd. Ça m'aurait pesé très lourd de savoir que mes frères auraient complété contre moi, me faire mourir, quoi. Parce que je vous ai déjà dit que j'étais le mouton noir, hein. Mais j'aurais trouvé ça lourd, quoi. J'ai déjà trouvé ça lourd que le frère qui me suit, dont je ne vous dirai pas son nom, est allé de nuit voir mon père avec des papiers pour nous désirriter pour qu'il touche l'héritage des 8. Et j'ai dû convoquer un conseil de famille pour parler à mon frère devant tout le monde. Parce que je trouvais ça injuste. Je trouvais ça abominable. Joseph, ici, ses frères, complotent pour le faire mourir. Pas parce qu'il fait le mal. Parce qu'il fait le bien, il parle de la vérité. Jésus a vécu la même chose. Matthieu chapitre 26, 3 et 4. Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif se réunirent dans le palais du grand prêtre Caïphe, et ils prirent ensemble la décision d'arrêter Jésus, pas devant tout le monde, en cachette, et de le faire mourir. Il a vécu la même chose que Joseph, ou Joseph a vécu la même chose que Jésus. Les frères de Joseph ont conspiré contre lui, il en fut de même pour Jésus. Non seulement a-t-il conspiré contre lui, mais il fut injurié et maltraité. Verset 23-24 de Genèse 37. Lisez ce que les frères de Joseph lui ont fait. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Alors ils l'ont jeté dans une citerne vide afin qu'il ne puisse pas en sortir, et ce, sans aucun moyen de subsistance. En fait, ils avaient signé son arrêt de mort, quoi. Ils cherchaient à le tuer. Quelle image concernant les souffrances de Jésus-Christ? Regardez ce qui est écrit dans Matthieu 27, 26 à 29, pour ceux qui ont leur Bible. Pilate fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Les soldats de Pilate emmenèrent Jésus dans le palais du gouverneur, et toute la troupe se rassembla autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau rouge, puis ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Vous savez que s'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait jamais eu de couronne d'épines? Parce que les épines ont poussé après le péché. Les chardons et les épines ont poussé après le péché, si vous allez dans Genèse. Et ces épines ont poussé, conséquence du péché, ces épines ont poussé parce qu'un jour, Jésus, ce serait sa couronne. Une couronne faite de branches épineuses. Jésus a souffert. Jésus est dépouillé de sa tunique de plusieurs... Joseph est dépouillé, pardon, de sa tunique de plusieurs couleurs. Jésus est dépouillé de sa tunique sans couture. Joseph a été mis dans une citerne. Jésus a été mis sur la croix. Quelle image ici de ce que Joseph a souffert. Jésus a souffert, pardon. On a conspiré contre Joseph. On en a fait de même pour Jésus. Joseph fut injurié et maltraité. Il en fut de même pour Jésus. Jésus a été trahi, tout comme ce fut le cas pour Joseph. Regardez ce qui est écrit dans Genèse chapitre 37, verset 28. mais des marchands madianites qui passaient par là tirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Joseph est trahi par ses frères et vendu pour 20 pièces d'argent. Est-ce que vous vous souvenez qui a eu l'idée de vendre Joseph pour un montant d'argent? C'est Judas. L'idée est venue de Judas. Est-ce que vous savez quel est le nom dans le Nouveau Testament qui correspond à Judas? C'est Judas avec un S, celui qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Matthieu, chapitre 26, 14, 15. Alors, un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Joseph est celui qui a été envoyé. Joseph est celui qui a été méprisé. Joseph est celui qui a été rejeté et qui a souffert. Et maintenant, il est celui qui devait mourir. Et sa mort, elle est une figure ici, un type, une image, et non pas une réalité, mais une réalité, pardon, des choses à venir. Que vont faire les frères de Joseph? Regardez, Genèse 37, verset 31-34, ceux qui ont leur Bible. Les frères égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang. Ensuite, ils l'envoyèrent à leur père avec ce message. « Nous avons trouvé ceci. Examine donc si ce n'est pas la tunique de ton fils. » Jacob l'a reconnu, il s'écria, « C'est bien la tunique de mon fils. » Une bête féroce a déchiqueté Joseph et l'a dévoré. Alors il déchira ses vêtements, prit la tenue de deuil et pleura son fils pendant longtemps, nous dit le texte biblique. Dans l'esprit de Jacob, Joseph était mort. Pouvez-vous imaginer ici la réaction du vieux patriarche lorsqu'on lui apporte ce manteau aspergé de sang? Il était certain que Joseph était mort et les frères de Joseph finiront par croire que Joseph aussi était mort. Chers amis, des siècles plus tard, le sang de Jésus, le sang du Fils de Dieu, sera apporté au ciel et répandu sur le coffre de l'Alliance du Père, en face du Père. Voici Joseph, celui qui a été envoyé, celui qui a été méprisé, qui a souffert et qui a été vendu et tenu pour mort. Quelle image nous avons ici de Jésus-Christ? Quelle image nous avons de Jésus-Christ? Et si vous prenez le temps de méditer les Écritures de Genèse jusqu'à Apocalypse, ou de Genèse au dernier livre de la Bible, dans l'Ancien Testament, Jésus est omniprésent. Jésus, il est omniprésent, il est partout. Il est partout. Pourquoi? Parce que ce livre a été fait pour écrire, pour nous parler de lui, mais aussi nous amener, l'Ancien Testament nous a été laissé aussi à titre d'exemple. On n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup d'illustrations à l'extérieur, c'est plein d'illustrations dans l'Ancien Testament nous concernant, plein d'illustrations. Troisièmement, nous voyons Joseph, Jésus qui a été souverainement élevé. Genèse 41, versets 38 à 44. 41, 38 à 44. Joseph va vivre toutes sortes de situations humiliantes. Je n'ai pas le temps de vous raconter tout ce qui lui est arrivé, mais je peux vous souligner qu'il a été injustement accusé et qu'il sera ensuite jeté en prison. Il a vécu toutes sortes de choses horribles. Pardon. Mais Dieu, dans sa providence, avait sa main protectrice posée sur vous. Et frères et sœurs, si vous êtes fidèles en Jésus-Christ, la main protectrice de Dieu est posée sur vous. Amen. La main de Dieu est posée sur vous. C'est vraiment important qu'on se rappelle. C'est important qu'on se rappelle de ça. On n'est jamais, jamais seul. Jamais. Tout comme la main protectrice de Dieu était sur Joseph, la main protectrice de Dieu, elle est posée sur moi, elle est posée sur ceux qui marchent en nouveauté de vie. Dieu, dans sa providence, avait sa main protectrice posée sur lui, il le fera sortir de la citerne, il le fera sortir de la prison. Il va ensuite l'élever et lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom. Quel parallèle avec Jésus! Regardez ce qui est écrit dans Genèse chapitre 41, versets 38 à 44. 41, 38 à 44. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? » Et on est dans l'Ancien Testament, là, hein? C'est un païen qui est en train de parler, hein? Pharaon, c'était le Fils de Dieu sur la terre, hein, pour les Égyptiens, hein? Et regardez ce qu'il dit. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Et frères et sœurs, quand Paul dit qu'il y a peu de sages, peu d'intelligents dans le peuple de Dieu, hein, Ce qui est important pour nous, c'est pas de connaître la grosse tête qu'on a. Ce qui est important, frères et sœurs, quand on est nourri de la parole, on est aussi sage et aussi intelligent que ce que le monde peut évaluer de ce qui est sage et de ce qui est intelligent. « Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Frères et sœurs, quand on marche fidèlement dans les voies de Dieu, on ne peut pas imaginer le plan que Dieu a pour nous et le plan qu'il veut réaliser à travers nous pour être glorifié. Joseph, c'est un minable pour ses frères, c'est un moins que rien. On l'a vendu pour 20 pièces d'argent. Joseph, il est rien pour Potiphar, il s'en va en prison. Il n'est pas à Lantin, là, hein? Il est avec les rats, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de plancher là-bas, hein? Il n'y a pas de lumière, hein? Il faudra regarder les illustrations des prisons égyptiennes, c'est épouvantable. Mais Joseph avait les yeux fixés sur son Seigneur. Et il savait, parce qu'il marchait dans la vérité, que le meilleur était à venir pour lui. Il ne savait pas quoi, mais le meilleur était à venir pour lui. Et si vous marchez dans la vérité ce matin, peu importe ce que vous vivez comme tempête, comme tsunami, rappelez-vous que le meilleur est à venir pour vous. Parce que Dieu a sa main posée, sa main protectrice posée sur vous. Moi, ça m'encourage, ça. Ça ne vous encourage pas ce matin? Oh, si, ça va, ce côté-ci. OK. Okay. Je vois qu'il y a une vieille troupe de ce côté-là. Là. Hey, les jeunes, vous êtes convaincus de ça? Hey, les plus jeunes, oui? Ah, voilà, amen. Hey, c'est encourageant, ça. On ne le voit pas, mais il est là. Il est là. Et il a sa main posée sur vous si vous marchez en vérité avec lui, dans la vérité. Et il a un plan pour vous. Et le meilleur est à venir, peu importe les épreuves que vous vivez, peu importe les persécutions que vous vivez, le meilleur est à venir. Et je suis persuadé ce matin qu'il n'y a personne qui est appelé à vivre ce que Joseph a vécu. Il n'y a personne qui est appelé à vivre ce que Paul a vécu. Il n'y a personne qui est appelé à vivre ce que David a vécu. Il n'y a personne qui est appelé à vivre ce que Jésus a vécu. Et Dieu a sa main posée sur vous si vous marchez en nouveauté de vie, parce que tous ces gens-là, ils marchaient dans les voies de Dieu. Et quand ils tombaient, David, c'est arrivé qu'il est tombé, Dieu l'a amené à travers toutes sortes de dédales, à l'amener à la repentance pour qu'il remarche à nouveau dans les voies de Dieu, dans les plans de Dieu. Dieu avait sa main posée sur David. Et il pouvait dire, malgré tout ce que David a fait, « J'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. » Et Dieu cherche encore, à travers ses enfants, des gens qui ont un cœur selon le cœur de Dieu. Et avoir un cœur selon le cœur de Dieu, c'est d'obéir à la parole de Dieu et de marcher dans les voies du Seigneur. C'est pas un petit péché que David a fait. Hein? Il en a fait deux gros hein, dans le même. Hein? Et Dieu a dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Ouais. Vous savez ce qui est le plus difficile à sortir du chrétien? C'est pas le péché, c'est la routine dans laquelle il se trouve. La routine dans laquelle on se trouve. On se lève le matin, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Le midi, on fait ci, on fait ça. Le soir, on fait ci, on fait ça. Soit qu'on écoute la TV, on écoute la télé-réalité, on écoute des émissions, on écoute des séries. Essayez de briser ça pour voir. Vous êtes incapable de briser ça, cette routine-là. Parce que vous y trouvez votre bonheur. Soyez honnête envers vous, là. Vous y trouvez votre bonheur, ça vous fait plaisir. De voir des gens de voix qui pleurent, de voir les jurés qui sont là, qui tapent, « Je te veux, puis je te veux, puis je te veux pas, puis je te veux. Ouais. » Moi, j'aime mieux que le Seigneur me dise, « Je te veux, toi. Ouais. » Et tu ne gagneras pas le premier prix, je l'ai gagné pour toi le premier prix, et c'est la vie éternelle. Briser cette routine, il faut confesser au Seigneur qu'on est esclave de notre routine quotidienne et qu'on a besoin de délivrance, frères et sœurs. Aussi niaiseux, aussi niaiseux, je cherche un mot belge, là. Aussi innocent que cela puisse paraître, nos routines. On est embourbés dans nos routines, on est emprisonnés dans nos routines. La plus belle routine, c'est de commencer avec le Seigneur Jésus le matin, c'est de poursuivre avec lui toute la journée, et c'est de se coucher avec lui le soir. Ça, c'est la plus belle routine. Et le seul qui peut essayer de défaire ça, c'est le diable. Et si on regarde nos yeux dans la parole, c'est la plus belle routine qu'on puisse avoir dans nos vies. Marcher au quotidien avec le Seigneur Jésus. Amen. Quelle transformation ce jeune garçon juif, méprisé, rejeté, laissé pour mort, qui croupissait en prison, est élevé et placé sur le trône d'Égypte où tout le peuple lui seront soumis. Frères et sœurs, vous êtes des enfants de Dieu, lisez le livre de l'Apocalypse. Non seulement vous allez régner avec le Seigneur dit qu'il va vous faire asseoir sur son trône. Il va vous faire asseoir sur son trône, y avez-vous pensé? Joseph est assis sur le trône d'Égypte. Le Seigneur dans l'Apocalypse dit qu'il va vous faire asseoir sur son trône dans la Nouvelle Jérusalem. Extraordinaire, non? Le Seigneur, il nous aime tellement qu'il dit, écoute, non, je ne la prends pas juste pour moi la place, hein? Tu fais partie de ma famille, tu es mon héritier, hein? Tu es appelé à vivre pour l'éternité avec moi. Allez. Vous comprenez ça? Vous comprenez un Dieu comme ça, vous? Il ne doit rien. Il avait juste à éternuer une fois, puis l'univers disparaissait. Heureusement qu'il n'est jamais malade, hein? Ouais. Et il nous a accordé la vie éternelle en Jésus-Christ, même sans le crucifier. Quelle transformation, je le répète, ce jeune garçon juif, méprisé, rejeté, laissé pour mort, qui croupissait en prison, élevé, placé sur le trône d'Égypte, où tout le peuple lui était soumis. Quelle image de notre Sauveur Jésus-Christ! 1 Pierre, chapitre 3, verset 22. Pierre, parlant de Jésus, dit ceci. « Depuis qu'il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu, où les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. » Le même parallèle. J'aime bien aussi ce que Paul dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 9 à 11. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Alors que Joseph circule dans les grandes allées de son char, en Égypte, un homme court devant lui, on appelle ça un héros, il court devant lui, en criant, « Fléchissez le genou, fléchissez le genou, fléchissez le genou, voici Joseph! » Quelqu'un dans la foule lui dit, « Je ne veux pas fléchir le genou. » L'homme lui répond, « Tu vas fléchir le genou, car Joseph a été souverainement élevé. Il a toute l'autorité sur le pays. Fléchis le genou. » Frères et sœurs, un jour, Saddam Hussein fléchira le genou. Hitler fléchira le genou. Staline fléchira le genou. Le roi des Belges fléchira le genou. Vous fléchirez le genou, je fléchirai le genou aussi devant le Seigneur Jésus. Je le fléchis tous les jours, frères et sœurs, ce genou, pour montrer qu'il a un droit de regard sur moi, pour montrer qu'il doit régner sur moi au quotidien. Mais ceux qui refusent aujourd'hui de fléchir le genou, tôt ou tard, un jour, ils vont fléchir le genou. Nous sommes en train de parler qu'il a été souverainement élevé. Il est maintenant glorifié. Il a reçu un nouveau nom. Regardez dans Genèse, chapitre 41, verset 45. Pharaon appelle Joseph du nom de Tsanapanéa. Est-ce que vous savez ce que ce nom égyptien signifie? Sauveur du monde. C'est le nom que Joseph a reçu. Sauveur du monde. C'est le nouveau nom qui lui a été donné, Sauveur du monde. Il lui a donné le pouvoir sur la vie et sur la mort. C'est le nom qui est donné à cet homme qui s'appelle Joseph. Et notre Sauveur ressuscité a aussi reçu un nom nouveau dans Apocalypse, chapitre 19, verset 12. Il est écrit qu'il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Nous parlons de notre Seigneur glorifié. Regardez comment Joseph l'illustre bien. Genèse 41, 45, il est élevé, il a reçu un nouveau nom. Et maintenant, on lui présente une femme égyptienne. Et on va essayer de terminer avec ça ce matin. Pharaon appelait, verset 45, hein, 41-45. Pharaon appela Joseph du nom de Tsanapanéa et lui donna pour femme Asnaph, fille de Potiphéra, prêtre d'eau. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Après avoir été élevé, il lui a donné une épouse, non pas une épouse juive, mais une épouse égyptienne. Allons, Dieu a le don de nous déculoter, hein? Dieu a le don de nous prendre par surprise. Hein? Pourquoi il n'a pas pris une femme juive? Hein? Dieu, les païens, ils n'ont rien à voir avec. Hein? Mais Dieu, c'est Dieu. Il n'y a pas de compte à rendre à personne. Hein? Il lui donne une femme égyptienne. Frères et sœurs, il en est de même avec Jésus. Il lui a été donné une épouse qui n'appartenait pas au peuple juif, que nous appelons l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous, les gentils, nous, les païens, dont Paul parle dans Éphésiens chapitre 5. Voilà pourquoi j'aime l'Église, parce que l'Église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Pas le bâtiment, les gens. Les gens. Même s'il y en a qui m'aiment moins que d'autres, j'aime les gens. Même s'il y en a qui parlent en mal de moi, j'aime les gens. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ règne en moi. Et quand un frère, j'entends parler qu'un frère parle en mal de moi, une sœur me critique, il y a cette voix du Seigneur du haut de la chair, du haut de la croix qui dit, « Jacques, pardonne à ton frère, à ta sœur, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pardonne. » Ouais. Et l'Église, c'est ça. Je répète, l'Église, c'est un grand hôpital où tout le monde se pense en santé, mais qu'elle est remplie de malades. On est délivré de toute forme de maladie spirituelle quand on arrive devant notre Seigneur. Et Dieu est le médecin par excellence. Il travaille à travers sa parole à nous transformer, à soigner ce qui est malade, à enlever ce qui est pas, qui ne devrait pas être là. On a un Dieu qui veut travailler dans nos vies. C'est nous, à cause de notre routine, qui l'empêchons de travailler. Frères et sœurs, avez-vous une conviction que Dieu veut vous rendre semblable à la personne de Jésus? Que quand les gens vous rencontrent, là, il y a quelque chose dans vos yeux là, qui leur dit, comme ça m'est arrivé, ce qu'il a dans ses yeux, c'est ce que j'ai toujours cherché. Pas obligé de marquer chrétien, je suis chrétien, dans le dos, je fréquente l'église de Lain en avant. Hein? Non. Ce qu'il a dans ses yeux, j'ai toujours cherché ça. Ouais. Et j'ai demandé c'était quoi. Hein? Et moi, j'essayais à travers des repas, dans les restaurants, les week-ends, les sorties, les week-ends, pour essayer de remplir le vide qu'il y avait dans mon cœur. Hein, j'essayais de combler ça. Et il m'a dit, j'ai expliqué, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai expliqué mon train de vie. Ben écoute, ce que j'ai, c'est gratuit. Ouais. Vous avez reçu gratuitement le salut, ben donnez-le gratuitement. Parlez de ce qui fait votre force. Parlez de ce qui fait votre joie. Parlez quand vous êtes déprimé parce qu'il est arrivé quelque chose de grand, comment vous vous en sortez en Jésus-Christ. Ouais. Parlez quand vous pleurez parce que vos enfants n'ont pas encore accepté le Seigneur. Parlez pour qu'on puisse prier avec vous. On a eu une très belle réunion de prière jeudi. C'est important qu'on amène nos enfants devant le trône de la grâce de Dieu. Et on n'a pas à cacher tout ce que nos enfants font. Ce sont des êtres humains, ce sont des pécheurs. Et ils ont besoin de nos prières, et Dieu dit qu'on doit être spécifique dans nos prières si on veut voir la délivrance arriver dans la vie de nos enfants. Oui, prie pour moi. Hein? Prie pour pourquoi? Mais tu sais, hein? Mais non, je ne sais pas, c'est pour ça que je te le demande. Hein? Pas grave. Hein? Dieu va te le révéler. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Hein? Moi, quand ma fille est mariée à un musulman, puis je ne le savais pas, moi, j'ai pris le micro ici. Et je ne l'ai pas caché. J'ai demandé, j'ai besoin de vos prières. Point final. Je suis pasteur, j'ai besoin de vos prières. Et elle a eu l'annulation de mariage. Grâce à vos prières. Parce que Dieu a touché le cœur du juge qui a dû rendre un jugement dans ça. Le mariage blanc. Ouais. Moi, je n'ai pas les moyens de me priver des prières des frères et sœurs en Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y en a qui ont les moyens. Moi, je n'en ai pas les moyens en tant que pasteur. J'ai besoin de vos prières et j'espère que je suis soutenu dans vos prières au quotidien, semaine après semaine. On a besoin, même les membres du conseil, on a besoin de vos prières pour pouvoir continuer à accomplir l'œuvre à laquelle nous sommes appelés en Jésus-Christ. Jésus aime son épouse qui est l'Église. Il nous aime, il travaille dans notre cœur afin que nous puissions nous présenter à lui comme une épouse sans tache et sans défaut. Quel est le point culminant de tout ceci? Chers amis, Jésus est le seul espoir pour ce monde qui est sans espérance dans cette vie maintenant, maintenant et dans l'éternité. La seule façon que ce monde pouvait être sauvé à l'époque de Joseph, c'est que Joseph pouvait pourvoir aux besoins de tous. Genèse 41, 55 à 57. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, c'est-à-dire que les gens crevaient de faim, Frères et sœurs, les gens à l'extérieur, ils crèvent, ils ont faim spirituellement. C'est incroyable. Vous allez sur 2-3 chaînes de télévision, là. Il n'y a que de la voyance, c'est des ci, des ça, il y en a, mais ça tourne. Hein. 2 € la minute, allez, ça tourne. Hein. Ouais. Les gens payent pour se faire consoler. Les gens payent pour se faire dire leur avenir. Nous, c'est gratuit. On a le Consolateur qui habite en nous. Le salut, il est gratuit. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé que le peuple mourait de faim, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte. De tous les coins du monde, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tout le pays. Dans tous les pays, pardon. N'est-ce pas incroyable? Joseph, un juif méprisé, rejeté par ses frères, qui devient le seul espoir du monde à son époque. Le petit Joseph! Je suis convaincu que, le Seigneur veut faire quelque chose avec le petit Jacques, avec la petite Pina, avec le petit avec le petit Ernest. Dis, t'emmènes à ça? Oui! Genèse 41-49, Joseph assembla du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable qu'on le cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre pour le compter. Joseph était le seul espoir pour les Égyptiens à cette époque, et celui qui est le seul espoir aujourd'hui, pour l'époque d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui est l'espoir pour ramener les gens dans le droit chemin, pour ramener les gens à réfléchir sur leur état spirituel, sur l'éternité, sur la condition spirituelle. L'apôtre Pierre dit dans Actes chapitre 12, « Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné quelqu'un d'autre par lequel nous puissions être sauvés. » Amen. Jésus, pas une religion. Amen. C'est une personne, la personne de Jésus-Christ. Il n'y a aucune religion dans le monde parmi les 10 000 qui existent qui est capable de vous certifier avec assurance que vous pouvez avoir la... Pardon, je vais recommencer une ligne, là. Il n'y a aucune religion dans le monde qui peut vous garantir que quand vous allez mourir, vous allez aller au ciel. Personne. Aucune religion. Et c'est pour ça que dans toute religion, les gens font des œuvres pour essayer de gagner un peu plus leur ciel, de toucher le cœur de Dieu. Si on fait ça, hein, on est en train de blasphémer le nom de Dieu, on est en train de lui dire que ce que Jésus a accompli sur la croix, ce n'est pas suffisant pour qu'on soit sauvé. C'est un blasphème, hein? C'est un péché grave. Hein? Jésus a dit, tout est accompli. Alors, arrête de faire des œuvres pour essayer de gagner ton ciel. Arrête de faire des œuvres pour montrer que tu es une bonne personne. Ça ne vaut rien devant Dieu. Il a accompli l'œuvre parfaitement. Parfaitement. Et le vrai christianisme, ça ne concerne pas une religion, ça concerne une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Et lui nous certifie à travers sa résurrection, à travers son sacrifice, à travers sa résurrection, où vous allez passer, où je vais passer l'éternité. Amen. Bon, rapidement, je prends 5 minutes pour le dernier point. Nous voyons Jésus en Joseph venant à la rencontre de ses frères pour leur pardonner et rétablir une nouvelle relation avec eux. Chapitre 45, versets 1 à 3. Rapidement, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Alors, ses frères, ils sont là, ils viennent le voir. Et là, Joseph, il sait qui ils sont. Il sait qui ils sont. Et vous savez, tout le travail que Dieu va faire pendant toutes ces années dans le cœur de Joseph, il va l'amener, parce qu'il sait qu'il va devenir un leader, un dirigeant important, il va l'amener à apprendre ce que c'est que de pardonner. Vous vous imaginez Joseph à la tête de l'Égypte quand ses frères arrivent, si Joseph n'a pas compris c'est quoi le pardon, il fait tout décapiter ses frères la première fois qu'il les rencontre. Frères et sœurs, si on n'a pas compris le pardon dans Jésus-Christ, tous ceux qui nous font du mal, on va essayer de leur remettre la monnaie de la pièce. Êtes-vous capable de prier pour ceux qui vous persécutent? Êtes-vous capable de prier pour ceux qui vous font du mal? Êtes-vous capable de prier pour ceux qui salissent votre réputation? Eh bien, moi, je peux vous dire qu'en Jésus-Christ, Dieu me donne la force de le faire. Et vous ne pouvez pas savoir le vent de liberté qui souffle dans mon cœur quand je le fais. Parce que la Bible dit qu'ils s'avancent des charbons sur leur tête. Et Jésus, la parole nous dit, « Venge-toi pas parce que tu m'enlèves l'autorité de le faire. » La Bible dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Non, toi, prie, pardonne. Laisse-moi m'occuper de ceux qui te font du mal. Je vais m'en occuper, dit Dieu. Je vais m'en occuper, moi. Laisse-moi. Ils vont avoir leur juste récompense. Et on doit faire attention à comment on parle à la maison, frères et sœurs, devant nos enfants. Si on critique l'Église, si on critique les gens, on éloigne nos gens, on éloigne nos enfants de la croix de Jésus. Nos enfants, c'est des êtres intelligents. Quand ils voient leurs parents parler comme les gens du monde dans leur maison, ils se disent, c'est ça des chrétiens? Tiens. Montrons que nous ne vivons pas seulement notre vie chrétienne à l'Église le dimanche matin, mais montrons à nos enfants qu'on vit à chaque jour cette vie chrétienne telle qu'elle nous est demandée. Et on va voir nos enfants venir à la connaissance de Jésus-Christ. On va voir nos enfants courber le dos devant le Seigneur Jésus. Et on sera dans la joie. On va rentrer en sautant dans l'Église, en remerciant tout le monde pour leur prière. Et on proclamera que Dieu a fait un miracle en Jésus-Christ dans le cœur de nos enfants. Frères et sœurs, ce n'est pas juste l'Évangile qui convainc nos enfants. L'Évangile vivant que nous sommes dans nos propres maisons qui convainc nos enfants de péché, de justice et de jugement. C'est capital. Vous pouvez connaître la parole de Dieu par cœur, comme les pharisiens, et n'avoir aucune relation avec Dieu. Ce qui est important, c'est de connaître le Dieu de la parole. Ça signifie que vous êtes passé par une nouvelle naissance et que vous avez une relation avec lui. Les pharisiens connaissaient la parole par cœur, la loi sur le bout de leurs doigts. Et Jésus, vous savez ce qu'il dit? Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Les pharisiens, vous savez, c'est qui? Ils ne sont pas morts, les pharisiens. Hein? Il y en a toujours. Hein? Parce que ça trouve le moyen de se multiplier. Hein? Le pharisien, c'est celui qui passe sa vie chrétienne à se comparer avec les pires que soi. Ah, lui est comme ça, moi je ne suis pas comme ça. Elle est comme ça, moi je ne suis pas comme ça. Ça, c'est le pharisien. Le chrétien né de nouveau, vous savez à qui se compare? Regardez ici. Hein. Jésus est comme ça et je prie le Seigneur qu'il puisse m'amener à lui ressembler. Point final. Et si je vois des défauts chez mon frère, chez ma soeur, je prie pour lui. Je prie pour lui parce que je voudrais qu'il soit entraîné dans le cortège de victoire que Christ est allé chercher à la croix. Amen. C'est important pour nous. Hein? En fait, bon, on va arrêter là. Mais simplement voir Joseph qui appelle ses frères, et Joseph qui, tout seul, se dévoile à lui. Il ne l'aurait même pas reconnu. Écoutez, il avait vieilli. Ça faisait plusieurs années que ça s'était passé. Il portait un vêtement égyptien. Il parlait l'égyptien. Ses frères ne l'auraient jamais reconnu. Et il s'est révélé, il s'est dévoilé à eux. Il leur a dit, allez voir mon père et dites-lui. Vous avez un message à lui dire. Ton fils que tu croyais mort, il est vivant. Jésus que vous croyez mort, il est vivant. C'est le message qu'on a à transmettre aux gens. C'est la même chose pour nous. C'est le message et le parallèle avec Jésus-Christ. Le Seigneur, il nous sauve. Il dit, j'étais mort, je suis vivant. Maintenant, allez le dire aux gens. Allez le dire aux gens que je suis ressuscité. Allez dire aux gens qu'il y a une vie après la mort. Allez leur dire aux gens comment rentrer dans le paradis. Et comme Joseph, dites-leur que le Père est prêt à vous pardonner tout péché, peu importe lequel que vous avez fait en Jésus-Christ. C'est le message de l'Évangile. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Là, ça ne va pas. Là. Dieu vous aime. Ouais. Dieu vous aime. Ouais. Et si vous réalisez jusqu'à quel point Dieu vous a aimé, à chaque jour, vous n'aurez pas faire autrement que de lui rendre grâce. Parce que vous avez entendu l'Évangile un jour. Que ça a changé votre vie. On me demande souvent de donner mon témoignage hein, dans le monde. Je ne peux pas le donner parce qu'il est vraiment sale. Mais je peux juste vous dire un de mes points de caractère. Hein, j'étais pas gros, moi. Hein, j'étais tout petit. Et on m'avait appris toujours dans le monde, tu frappes avant qu'on te frappe. Et ça, j'étais rapide pour frapper. Quelqu'un me regardait de travail, je frappais. Quelqu'un parlait mal de moi, je le frappais. Et moi, je vois combien Dieu m'a transformé en Jésus-Christ. Il y a des gens qui me salissent. Et il y a des gens qui acceptent des mensonges plutôt que de venir me voir pour savoir si c'est la vérité. Et je suis capable de prier pour eux. Je suis capable de dire, Seigneur, aie pitié d'eux, ne les punis pas comme ils le méritent. Parce que ces gens sont perdus, Seigneur. Je te prie d'avoir pitié d'eux. Ça, ça fait partie de la nouvelle naissance. Je ne serais pas capable si je n'étais pas né nouveau de le faire. J'aurais tous allé les taper un par un si je n'étais pas né nouveau. Et ce vieux Jacques, il est mort. Et le nouveau Jacques en Jésus-Christ dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ne les traite pas comme ils le méritent. » Frères et sœurs, la grâce extraordinaire que vous avez, c'est que Dieu ne vous traite pas comme vous le méritez. On a tous des manquements dans nos vies. Tous. Et le cœur du Seigneur n'est que pardon. Que pardon. Et le Seigneur veut qu'on sorte de notre routine quotidienne qui nous empêche de marcher avec lui pour rentrer dans sa routine à lui et de vivre selon sa parole, de vivre selon en fonction de celui qui est la parole. On est un Dieu extraordinaire. On est un Dieu qui est merveilleux. Frères et sœurs, il y a des gens qui ne se gênent pas pour nous raconter des histoires grivoises. Ils ne sont pas gênés. Pourquoi nous, on est gênés de leur partager l'histoire qui peut bouleverser leur vie, transformer leur vie, les faire passer de la mort à la vie, les faire passer des ténèbres à la lumière, de l'enfer au ciel? Pourquoi on serait gênés? Le pire qu'on peut recevoir, c'est une tape dans la figure, hein? Une insulte, hein? Eh bien, là, je tiens à vous dire une chose. « Réjouissez-vous, nous dit la parole. » Réjouissez-vous, si vous en avez une bonne, parce que vous avez dit que vous m'apparteniez. Réjouissez-vous, si on vous insulte, on vous persécute à cause de mon nom. Réjouissez-vous, parce que ça fait partie des promesses que moi je vous ai données. Ça, c'est une promesse, on ne l'aime pas celle-là, hein? Mais c'est une promesse de la parole. Prêche l'Évangile, tu vas être persécuté. Prêche l'Évangile, tu déranges le royaume. Va témoigner dehors, tu déranges. Le Seigneur a dit, vous serez persécutés. Il n'a pas dit où, hein? Dans l'Église aussi, vous allez être persécutés. À l'extérieur, vous allez être persécutés. Dans l'Église aussi, vous allez être persécutés. Mais le Seigneur est vivant. Le Seigneur, il est là. Le Seigneur, il est là pour nous soutenir. Il est là pour vous faire progresser dans votre connaissance et dans votre foi de la personne de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter dans le livre de Cantiques de l'Église. Rien n'est impossible à mon Dieu.